Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Merci d'être avec nous en direct, mais également en podcast. Une émission que vous pouvez retrouver sur les différentes applications. On a évoqué l'Olympique de Marseille, l'UBB, Stade Toulousain, le départ de Greg Popovich. Bref, tranquillement, cet après-midi, vous pourrez réécouter les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Ce matin, dans quelques instants, le Paris Saint-Germain fausse-t-il la course à la Ligue des Champions? On se posera la question. 11h30, le dossier des GG, l'intelligence artificielle s'invite dans le peloton pour la stratégie des entraînements ou encore la nutrition. Est-ce juste un gadget? On ouvre ce débat et je sais que ça fait bondir Marc Madiot, donc c'est parfait de t'avoir dans cette émission. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Un débat qui va vous plaire, mes GG, ce matin. Je suis sûr que ça va vous titiller.
Tu nous dis ça tout le temps et puis en fait on a...
Oui, c'est vrai, ça vous plaît jamais. Alors, un débat qui va me plaire. En même temps, c'est moi qui l'ai décidé, donc c'est sûr. Mais non, mais si, ça va vous interpeller. Oui, il y a quelque chose qui va émoustiller même, peut-être.
Ah, carrément.
Oui, on est
dimanche matin. On est à l'émoustiller.
On peut mettre des notes après ton débat caché aussi.
Alors, on instaure ça, la note sur 10 du débat caché à la fin. À chaque fois, vous noterez sur 10. Attention, si c'est une trop mauvaise note, je gère quand même les payes. Mais bon, évidemment... Vous ferez comme vous voulez.
Bonne note, moi, j'y sais.
L'objectivité, okay, les copains.
Faillot, celui-là.
OK. On peut toujours compter sur Jérôme. Merci, mon Jérôme. Je t'aime, tu le sais. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation. Vous savez, tout à l'heure, j'ai cité Voltaire, donc je cite souvent les hommes de ce monde qui ont compté, évidemment. Et je voudrais citer Sylvester Stallone, qui a dit quoi? Attendez,
très, très bien.
Je vais essayer de prendre l'accent aussi, pas américain. Voilà. Sylvester Stallone qui a dit un jour, c'était pas ma guerre.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est tiré par le pied gauche de Bakou à la tête, peut-être le contre but. Le but Lucas Hernandez au second poteau qui dévie le ballon dans son but. Strasbourg mène 1-0 après 20 minutes de jeu.
Attention, c'est passé pour Habib Diarra sur le côté droit. Il va être en un contre face à Beraldo. Il va servir le match. Et ben voilà, ils ont appuyé sur l'accélérateur pour faire plier le Paris Saint-Germain dans cette fin de mi-temps. Le 2-0, il est là. C'est fini. Oh, les images incroyables dans le public, mais aussi sur le banc, avec tous les remplaçants, le staff qui s'est jeté, même Diego Moreira sur une jambe, en train de boitiller, de sauter sur une jambe pour aller embrasser ses coéquipiers. Quel coup!
Est-ce que cette nouvelle défaite parisienne va faire polémique?
Paris, c'est un nul et deux défaites en Ligue 1. Paris brille en Coupe d'Europe. Paris a la peine depuis son titre en championnat de France.
C'est le lot des équipes qui ont la tête ailleurs. L'envie n'y est pas, le dépassement de soi n'y est pas. Et du coup, le résultat n'y est pas non plus. Le PSG a perdu hier son deuxième match de suite en Ligue 1, son deuxième match face à un prétendant aux quatre premières places du championnat. Mais comment en vouloir aux Parisiens qui disputent dans quatre jours le match pour aller en finale de la Ligue des Champions? Et pourtant, cette impasse à Strasbourg ne doit pas ravir ce matin les Monégasques, les Marseillais, les Lillois ou encore les Lyonnais qui ont dû, eux, se coltiner la grosse équipe du Paris Saint-Germain depuis hier soir. Une petite musique est en train de résonner de plus en plus forte. Et si le PSG faussait la fin du championnat, alors on va s'emparer une fois pour toutes de ce débat pour que ce soit clair pour tout le monde.
Comme tous les ans.
La musique qui fout les jetons et cette question. Le PSG fausse-t-il la course à la Ligue des Champions? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Forcément, un peu. Oui.
Jérôme Pinault.
Bien sûr que non.
Marc Madiot.
Plutôt oui.
Plutôt oui. Pascal Duprat.
Non.
C'est deux oui, deux non. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit le Paris Saint-Germain, Valentin Germain. Salut Valentin.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors tu étais hier à Strasbourg, tu commentais cette rencontre sur RMC. Comment les Parisiens vivent cette deuxième défaite de suite en championnat?
Sans s'inquiéter, évidemment, et clairement, même s'il faut remonter à plus de deux ans pour trouver la trace de deux revers de suite en championnat pour Paris. Mais Luis Enrique, l'entraîneur, avait même le sourire après le match d'hier.
Y nosotros hemos hoy competido a un altísimo nivel. Con cuatro jugadores de la formación, iniciando el partido, todos ellos han estado muy bien. Satisfecho de lo que he visto, creo que hemos competido al alto nivel que es la Ligue A. Y ahora ya pensar en la competición en la que estamos immersos.
Voilà, satisfait Luis Enrique de ce qu'il a vu, du contenu, les objectifs sont atteints, dit-il. On a commencé en plus avec 4 joueurs du centre de formation. Donc Luis Enrique, heureux également du contenu. Il dit qu'ils auraient pu égaliser. Les siens, l'Espagnol, avait changé 10 joueurs sur les 11 qui avaient commencé à Arsenal. Une équipe très très jeune qu'on n'avait jamais vue dans les 5 grands championnats européens, 4 joueurs de 18 ans au moins au coup d'envoi. Donc forcément, c'est plus facile pour une équipe comme Strasbourg, même si l'entraîneur alsacien Liam Rosenior nuance ce constat et n'estime pas avoir eu un match aisé.
Yeah, to be an amazing team, regardless of the changes that they make, they're incredible team. So for us to get the 3 points, which is in a crucial stage of the season, I couldn't be prouder of the spirit and the character of the players.
Un match très difficile, dit Liam Rosenior, face à une grande équipe. Et même si Paris fait tourner son effectif, Paris est toujours une équipe formidable, sans invincibilité à garder pour le PSG, avec un titre déjà joué. Lucas Beraldo, le défenseur hier, concédait bien que mercredi était dans les têtes, sans jeter la pierre à la jeunesse du 11 de départ. Peut-être que ça a joué, conclut Lucas Beraldo, mais on joue tous ces matchs pour les gagner. Comme vous avez dit, je pense maintenant qu'on est clairement projeté vers le match de mercredi, puisque la Ligue des Champions est plus que jamais la priorité du PSG en cette fin de saison.
Ah bah, si t'es pas polyglotte, t'es mal barré dans cette émission. Merci beaucoup Valentin Jamin. Les sons n'étaient pas traduits, on a eu un petit souci avec la machine. Bravo en tout cas d'avoir récupéré comme ça le fil, évidemment, de ton petit reportage hier à Strasbourg. Tu restes avec nous pour
ce débat. 5 langues je parle en plus, c'est impressionnant. Ça,
très bien.
Il parle le mandarin aussi. Ouais. On n'a pas eu de chinois aujourd'hui.
Il est bon. Non, j'ai fait une très mauvaise blague. On va passer à autre chose. Le PSG fausse-t-il la course à la Ligue des Champions? Oui, parfois faut sélectionner. Il y a plein de choses qui se passent dans ton cerveau.
C'est marrant, moi j'arrive pas à sélectionner.
Oui, Lionel Charbonnier non plus. Je le dis souvent dans les paris RMC. Je dis Lionel, fais le tri. Tu vois, ne dis pas tout ce que tu penses. Et ben là,
tourne la langue dans ta bouche 7 fois avant de parler. C'est ce que me disait ma grand-mère.
Alors le PSG fausse-t-il la course à la Ligue des Champions?
C'est pas pratique.
Il y a du oui, il y a du non. Christophe, j'ai envie de commencer par toi.
C'est gentil. Pourquoi? C'est parce que c'est moi qui t'a donné l'idée du sujet en plus.
Exactement, pourquoi oui ?
Parce que j'étais dans mon studio, Valentin était à Strasbourg, et puis on a assisté à une première mi-temps indigente. Franchement, de la part du Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le visage qu'a montré cette équipe. Une équipe qui est quand même dans le dernier carré de la Ligue des Champions et qui se carre complètement de la fin de ce championnat de Ligue 1. Alors, on peut les comprendre. Il y a évidemment d'autres enjeux à aller chercher, les coupes à aller décrocher. Mais je trouve quand même que... c'est un peu manqué de respect à cette compétition qu'ils ont largement dominée. Alors, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent envoyer les minimes s'ils veulent à Strasbourg. Mais là, faire débuter combien ? Il y avait 4 gamins de 18 ans.
18 ans au moins.
Et les autres joueurs qui étaient là étaient des joueurs qui sont déclassés dans l'esprit de Luis Enrique. Il y en avait peut-être un ou deux qui pouvaient espérer entrer sur la feuille de match de mercredi. Mais les autres, ils ont le moral dans les godasses. On les fait, bah tiens, va jouer à Strasbourg. Tu vas voir, c'est beau l'Alsace, tu vas aller pouvoir bouffer des flammes queuches, mais bon, ne t'attends pas à jouer. Les mecs, ils avaient des godasses lourdes de 15 kilos et ils n'ont pas fait le match, une première mi-temps catastrophique. Alors face à eux, évidemment, les Strasbourgeois étaient déchaînés. Mais je veux dire, des clubs comme l'OM, comme Lyon, comme Monaco ou comme Lille, qui n'ont pas pris un seul point lors des matchs aller et retour, eh ben, peuvent en vouloir à qui ? Au mec qui a fait le calendrier, qui a fait le tirage au sort du calendrier.
Et ça, je sais pas
si on sait pas à l'avance. Si les diffuseurs ne s'arrangent pas pour qu'il y ait les matchs phares, si tu veux, en tout début ou en milieu de saison.
T'auras jamais un PSG-OM au mois de mai.
Voilà, t'auras jamais un PSG-OM là. Donc de toute manière, tu sais, pour l'OM, ce sera toujours foutu. En revanche, Strasbourg, qui était pas considéré comme une équipe qui pouvait aller jouer la Ligue des Champions, bah tu les retrouves contre le PSG en fin de saison.
Je dis pas
que c'est la faute du Paris Saint-Germain. Je dis que le PSG est fausse, mais que c'est pas de sa faute. C'est la faute des mecs qui font le calendrier.
C'est la faute. C'est la faute des autres clubs concurrents qui n'ont pas marqué les points au moment où il fallait les marquer.
Mais ils ne les marquent pas parce qu'ils peuvent pas compter le PSG quand il n'y a plus rien à jouer, Jérôme. Quand il n'y a plus rien à jouer, tu crois que le PSG joue? Non, ils ne jouent plus. Ils s'en foutent.
Ils ont
perdu leur invincibilité la semaine dernière.
Ils ont le trophée majeur dont ils rêvent tous à jouer mardi.
Mais je sais bien, je l'ai expliqué ça.
Une finale de Coupe de France.
Je l'ai expliqué.
Ce qui se passe surtout dans cette course-là, c'est que, à part Strasbourg, qui est l'invité surprise, les autres, il y a deux confrontations. Tu joues une fois chez toi contre Paris, et une fois chez, à l'extérieur.
Mais toujours,
et après,
toujours.
Si tu veux être deuxième et tu veux jouer avec des champions, faut les mettre les points. C'est plus maintenant, c'est trop tard là.
C'est
et
pas
là,
Paris qui les a pas marqués.
Mais il y est pour rien. Il joue la Ligue des Champions. Il va jouer la Coupe
du match qui oppose toutes ces équipes là. Au Paris Saint-Germain, c'est ça la différence. C'est que toutes ces équipes, la plupart qui sont les postulantes à la Ligue des Champions, ont affronté Paris alors que Paris n'était pas encore champion. Et donc Paris était plein badin et ne voulait qu'une chose, c'était les taper, prendre des points et se rapprocher du titre.
Bien sûr, mais maintenant
que
Paris
est acquis, il reste deux équipes qui sont Nice et Strasbourg, qui arrivent après le titre et qui, elles, bénéficient de circonstances atténuantes.
Ouais, mais on peut édulcorer contre Nice, Christophe.
Nice a joué face au PSG alors qu'il était encore dans le but d'être invincible. Et ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher.
Ils ont joué
leur
avec une équipe type.
Face à une équipe.
Ils vont pas jouer 200%. T'as pas vu la même équipe face à Nice équipe, que face à Arsenal.
C'était les titulaires.
Mais répétition.
Au moins, c'était les titulaires.
Bah oui.
Et là, il a joué d'autres joueurs.
Là, c'était l'équipe junior hier soir.
Pascal,
donc 3 points en Strasbourg. Tant mieux pour eux. Mais les autres, pour avoir les points,
c'est que les autres, ils avaient qu'à faire le match avant.
En quoi Paris Saint-Germain devrait être responsable
Je t'ai dit qu'il n'était pas responsable.
Non, mais
qu'il fausse le championnat, mais ils sont pas responsables.
Mais ils le faussent pas le championnat.
Quand Nice bat
le Paris Saint-Germain au Parc, Nice bat Paris Saint-Germain, il y a rien à dire.
Ouais, ça, y a
Paris Saint-Germain aligne une équipe qui est cohérente par rapport simplement au calendrier et au match qu'il a livré, cette double confrontation contre Arsenal.
Ils ont un match contre Strasbourg. Ils ont déjà 6 points en poche, hein.
Contre Strasbourg, peut-être que là oui, il a pas exagéré, mais bon, il a fait jouer de jeunes joueurs parce qu'il veut peut-être voir aussi ce que ces jeunes joueurs rendent au niveau Ligue 1. C'est aussi, ça participe
prépare
à son,
aussi la saison
à son,
prochaine,
à son
hein.
boulot.
Il participe jouer des joueurs de moins de 18 ans, il prépare la saison prochaine.
On verra si Strasbourg ou si Nice sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Attendons 2 matchs pour certains, 3 matchs pour d'autres, pour savoir si ça aura eu une influence. Parce que jusqu'alors, si Nice, si Strasbourg ou si d'autres équipes n'ont pas marqué les points suffisants pour être aujourd'hui à l'abri et qualifiés en Ligue des Champions, c'est quand même pas du ressort du Paris Saint-Germain. Okay. Vous en demandez beaucoup, Paris Saint-Germain, mon cher Christophe.
Ça fausse parce qu'on a le sentiment que la meilleure équipe du PSG n'est pas alignée sur certains matchs, mais en même temps le PSG utilise son effectif, et dans ses effectifs il y a des jeunes joueurs, et il faut leur donner aussi du temps de jeu, il faut avoir le temps d'évaluer le potentiel de ces jeunes joueurs. Donc le PSG et l'entraîneur du PSG, tout le monde est dans son rôle. Après, c'est pas la faute du PSG si les autres équipes n'ont pas été au même niveau et que le championnat se joue sur les 2 ou 3 dernières
journées. Mais pourquoi tu dis que ça fausse alors?
Ça fausse parce que c'est pas le meilleur effectif possible du moment qui joue. Là-dessus, c'est quand même une réalité. La réalité, c'est que l'équipe qui aurait dû jouer, c'est celle qui va jouer mardi ou mercredi en Ligue des Champions. C'est cette équipe-là qui aurait dû jouer hier à Strasbourg.
Il a le droit,
mais ça pose quand même un peu le
problème. T'as le maillot jaune avec 5 minutes d'avance ou 7 minutes d'avance sur le deuxième et le troisième. Et il y a une échappée ce jour-là, le quatrième, il va pas dire à toi, c'est à toi de faire le taf. Lui, sa saison, c'est demain. C'est mardi.
Prenons l'exemple.
Par contre,
pour ça qu'il aurait enlevé le Paris Saint-Germain du championnat.
Je me mets dans le camp adverse, Pascal, et tu vas répondre à cette question. Est-ce que, avec ce qui s'est passé toute l'année, les droits, etc., la guerre entre les présidents, si à l'heure actuelle et si ce week-end, à la place de Strasbourg, c'est Lyon, Marseille, voire même Monaco, est-ce que il fait l'impasse? Là, j'en suis
mais
pas
jamais,
sûr.
Mais jamais tu retrouveras ces équipes-là peut-être opposées au Paris Saint-Germain en fin de saison. Et elles sont toutes...
Au nom du Jean-Bierre. Il faut quand même se rappeler de tout ça.
Pascal, tu as interpellé Pascal, il va te répondre.
Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain est obligé. En fait, Luis Enrique, il y a un parti pris. Il a une demi-finale retour à jouer contre Arsenal. Et si on veut bien prendre l'exemple d'Arsenal, Arsenal a perdu hier avec son équipe type à Brandsmouth. Il a faussé le championnat puisque les joueurs d'Arsenal sont au match retour de Ligue des Champions, c'est bien naturel. Donc, pourquoi aller dire que le Paris Saint-Germain, sous prétexte que
Arsenal n'est pas champion et encore sous pression dans le championnat.
Et avant le match d'hier, ils avaient 6 points d'avance alors qu'il restait 4 journées. Ils en ont encore 3. Plus une meilleure différence de but.
Ils en ont plus 3.
La différence, Pascal, quand même, le championnat anglais, la place est déterminante. Quand on connaît les droits et comment sont distribués les droits, de finir deuxième, troisième, quatrième, c'est pas du tout la même chose. Et là, t'es sûr de les avoir en première ligue. Parce qu'à la différence de chez nous.
Enfin, toujours est-il que l'argument qui tendrait à dire que le Paris Saint-Germain a faussé l'attribution de la Ligue des Champions sous prétexte qu'une fois dans la saison, alors qu'il prépare le match retour tellement important pour aller enfin en finale de Ligue des Champions et enfin gagner la Ligue des Champions, voilà pas qu'on va le rendre responsable des attributions des deuxième, troisième ou quatrième et cinquième places. Bon, faut pas déconner, ça tient pas debout, ça. Ça tient pas.
Laurent nous appelle au 32-16. Il veut réagir. Salut Laurent.
Salut à tous.
Tu étais au stade hier. Tu es supporter de Strasbourg.
Hier à la Méno, supporter du Racing, bien sûr.
Bah, homme heureux. Donc.
Super heureux. On fait une saison historique.
Puis c'était prévu votre victoire face au PSG de longue date. Elle était prévue.
Attends. Regarde un peu les résultats du Racing en 2025. Tu prends que 2025, on est premier du championnat.
Vous avez même pas, réussi à nous battre.
Oui. Il est niçois. Vas-y, continue, mon cher.
Ouais, bon, on a perdu contre Nice parce que bon, voilà, on avait la tête à la Ligue des Champions. Non, non, mais sérieusement, dire que Paris nous a laissé gagner, ils ont aussi mis les moins de 13 et on leur a mis 8-0. Non, mais vous avez vu le match ou vous avez
non,
pas
mais
vu le match,
non, mais regarde, revois la première mi-temps, franchement. Ils ont joué pendant 10 minutes. Après, derrière, vous faites une super première mi-temps. Mais vous aviez face à vous que l'ombre du Paris Saint-Germain, quand même, reconnais-le.
Ben oui, c'était des remplaçants,
Qui est venu faire des top matchs à la Méno cette saison? On a mangé toutes les équipes.
Monaco.
On a bouffé toutes les équipes. T'as vu Lyon à la Méno? Ouais. On les a malmenés. T'as vu Marseille à la Méno? Pareil. Alors non, arrêtez.
Attends. Il y a quand même une chose. Il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Si tu alignes l'équipe A qui va jouer contre Arsenal avec la même intensité, la même idée de jeu et le même niveau, t'as beau avoir la méno.
C'est quoi l'intérêt de mettre l'équipe A?
Ah bah, il y en a pas, je suis d'accord.
Une demi-finale retour de Ligue des Champions.
Soyons bien conscients quand même que le Racing Club de Strasbourg, et tant mieux pour le club, a bénéficié du fait que le PSG a levé le pied.
On n'a rien bénéficié. Et Marseille, tu veux parler des autres clubs? Alors ok, le PSG, ils ont laissé filer le championnat. Ils ont eu deux défaites, ok. Mais les autres clubs, ils foutent quoi?
Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Marseille, si t'as écouté depuis le début du débat,
ils prennent 6 buts en 2 matchs contre Auxerre. Et après, on pleure parce que le PSG laisse filer des matchs. Mais prenez vos points, les amis. Vous n'êtes pas capables de taper Auxerre, vous allez jouer avec les champions.
Exactement.
Franchement.
Corruption.
Les Marseillais, ils sont rigolos, hein. Ils sont toujours en train de chialer parce que le PSG, ils perdent des matchs. Mais eux, ils font quoi quand ils vont en Ligue des Champions? Ils sont ridiculisés. Les Lyonnais, ils avaient la possibilité de passer en demi-finale de Coupe d'Europe. Ils ont fait dans la culotte. Oh, alors qu'on Nice gentil, en Coupe d'Europe, ça fait quoi Nice en Coupe d'Europe? Pareil.
Non, mais on l'a pas vraiment disputé.
Les supporters de Strasbourg, non?
Oui, Laurent est supporter de Strasbourg. Il a rhabillé tout le monde. Strasbourg est 5e avec 57 points, égalité
mais
avec
Nice.
On va
voir, mais l'année prochaine, Strasbourg marchera sur l'Europe. C'est bien.
Non, mais l'idée, c'est pas de dénigrer telle ou telle équipe, c'est de savoir un petit peu ce qu'en pensent les adversaires, les concurrents pour cette place en Ligue des Champions et de savoir comment ils se
projettent. Un Lyonnais ou un Lillois pour voir ce qu'il en pense.
Eh ben, appelez-nous. Vous avez encore quelques minutes au 32-16. Je voudrais vous faire écouter quelque chose, c'est le milieu de terrain d'Arsenal qui cartonne évidemment avec son club, c'est Saka qui a parlé du Paris Saint-Germain ce week-end, et voici ce qu'il dit du PSG, c'est extrêmement intéressant. Il parle pas de l'équipe de Strasbourg, hein, évidemment, mais du Paris Saint-Germain.
Alors, pourtant, l'année prochaine,
la grosse équipe du PSG.
À 100%, c'est une équipe totalement différente. La cohésion qu'ils ont et la manière dont ils font tourner le ballon, ils étaient bien meilleurs, ils m'ont énormément impressionné pour être honnête.
Est-ce que c'est la meilleure équipe que vous ayez affrontée?
Je dirais que oui, probablement.
La meilleure équipe qu'il ait affrontée cette saison, Saka. Comment vous le voyez? Un mot tout de même sur ce match retour, c'est mercredi soir. Un match
enfin.
Vas-y Pascal, commence. Comment tu le vois ce match?
Très indécis, quoi qu'on en dise. parce qu'il y a qu'un but d'avance pour le Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, moi, il me semble que, alors que tout le monde attendait Arsenal physiquement plus prêt que le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'Arsenal, pour avoir encore regardé le match hier, est physiquement émoussé. Donc, j'espère que le Paris Saint-Germain va en profiter.
Ok, émoussé, c'est aussi votre sentiment, Marc ? Toi, l'ami, on peut dire, nouvel ami, Luis Enrique, maintenant. Vous êtes proche, quoi.
Luis. Moi, je pense que, un peu comme Pascal, que ça va pas être simple, mais qu'au bout du compte, Paris devrait passer.
Ok, Paris va se qualifier, Jérôme.
Moi, j'ai hâte de voir.
Supporter marseillais, pas qu'à
Non, supporter parisien en Champions League à 200% derrière le PSG. J'ai hâte de voir ça, et j'ai hâte de voir le retour. Je suis un peu plus même à dire que Arsenal va poser beaucoup de problèmes à Paris. Maintenant, ça va être fabuleux à voir. Ça va être très serré. Et je vois bien un match aller aux prolongations parce que malgré tout, le match aller, il y a quand même beaucoup d'opportunités aussi pour Arsenal de mettre au fond.
Il y en avait aussi.
Il y en a eu pour Paris aussi. C'est un match qui est très équilibré. De toute façon, on est sur les quatre équipes qui sont fabuleuses. Moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est que Paris batte Arsenal, aille en finale et d'assister à un PSG-Barça. Et je pense qu'on peut avoir affaire à l'un des plus beaux matchs sur un terrain
c'est
de football.
C'est pas fait encore, pays. Ça.
Non, parce que les deux autres équipes ont leur mot à dire. Mais ce serait fabuleux, quand même. Mais
dispositif exceptionnel, vous en doutez, mercredi soir pour cette rencontre entre le PSG et Arsenal.
La vie de Christophe.
Je demande à Christophe, parce que Christophe est tombé amoureux de cette équipe. En plus, c'est vrai. Tombé amoureux cette année du PSG.
Franchement, moi, je les adore. Ils me régalent. Et même contre Arsenal, au match aller, alors qu'ils ont été dominés, bah, ils ont tenu la baraque. Ils ont montré des choses qu'ils ne montraient pas les années précédentes.
Ouais, la solidité, oui.
Maintenant, ouais. un but, c'est pas beaucoup. Un but, c'est pas beaucoup.
Et Jean-Christophe, il va
falloir que Donnarumma soit encore une fois exceptionnel et que Dembélé soit présent. Soit là, et ça, c'est pas là. Sûr.
Donnarumma qui se faisait tailler.
Mais oui, mais tu sais bien qu'on dit un truc, qu'on dit le contraire le lendemain.
Comme
parce
quoi,
que c'est le principe de cette émotion.
Le point
tu n'as
faible.
Toujours pas compris
combien
le
de fois
de
ai-je entendu c'était le point faible. Le Paris Saint-Germain ne pourra jamais exister en Ligue des Champions avec un gardien pareil. Et voilà pas que maintenant Donnarumma, c'est le meilleur gardien d'Europe.
J'espère juste que
planète.
Le PSG va pas fausser la Champions League et va aligner sa meilleure équipe.
Ah oui, parce que s'ils mettent l'équipe de Strasbourg, à mon avis, Arsenal leur en plante 10.
Vous en avez parlé avec Valentin Germain des nouvelles doucement Dembélé avant cette rencontre capitale.
Il était donc absent hier, impréservé, pas de déplacement à Strasbourg, victime d'un étirement musculaire à l'ischio-jambier. Pas de panique outre mesure concernant sa participation au retour. Il est toujours incertain. On attend une communication. Paris reprend l'entraînement demain. Peut-être est-il déjà en train de travailler d'ailleurs au centre d'entraînement. Mais un forfait serait peut-être quand même une surprise, on va dire. Dans la dynamique actuelle, on devrait pouvoir peut-être le voir dans le groupe. La question titulaire, prêt ou pas, etc. Mais on n'est pas inquiet de là à dire qu'il ne jouera pas du tout.
Bon, on aura d'autres informations, ce sera à suivre évidemment sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Valentin Germain d'avoir été avec nous ce matin. Justement, on parle du Paris Saint-Germain, c'est votre grand moment sur RMC. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour remporter vos places pour PSG Arsenal. 5 minutes, ok. Vous envoyez PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16 pour vivre l'expérience RMC. Vous venez RMC avant le match, vous allez avec la personne de votre choix au Parc des Princes pour PSG Arsenal et ensuite vous revenez pour l'after. Bref, une soirée magique qui se gagne sur RMC. Bonne chance à tous. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'intelligence artificielle dans le vélo. Marc Madiot est excédé. Je préfère vous le dire. C'est le dossier des GG dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
T'es grand! T'es très grand!
Jusqu'au bout, là. C'est la dernière ligne droite. La ligne droite de ta vie, mon enfant!
Les grandes gueules du sport.
Allez, mon grand! La ligne droite pour toi! Pour ta famille! Pour le cyclisme français! Pour les Bretons! Tu dois le faire!
Jean-Christophe Drouet.
Ah, on se régale, c'était cet été durant les Jeux Olympiques. Marc Madiot au commentaire avec Arnaud Souk, avec Christophe Cessieux pour la course en ligne. Marc Madiot qui est avec nous ce matin, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux.
Moi, je ne faisais que le filmer ce jour-là. C'était un spectacle dans les tribunes du Trocadéro.
Il est
incroyable. Tous les commentateurs du monde entier se retournaient pour voir quel était le malade qui criait de la sorte. Et là, moi, j'étais avec Cyril Guimard et on se marrait et on filmait Marc qui était comme un fou. Arnaud, lui, était un peu désespéré parce qu'il pouvait plus lui en placer une. Et donc, il était là, il essayait.
Et la deuxième place de Valentin Madouas.
T'as fait le lancement qu'il fallait.
Sur les émotions ?
Ben non, sur l'intelligence artificielle. Ah
bah, oui, versus les émotions.
Voilà.
Ok.
Donc voilà, le match est plié, on remballe.
Alors attends,
là on passe au débat caché.
Alors c'est vrai, mais il est 11h32, on a encore 9 minutes à faire sur ce débat. On va essayer de le faire quand même parce que c'est le dossier des GG.
RMC. Le dossier des GG.
Et si, Marc, c'était une révolution dans le cyclisme. Depuis quelques mois, l'intelligence artificielle s'invite dans le peloton, dans certaines équipes, pour optimiser les performances des coureurs, à l'image de UAE Team Emirates, au service de sa star, Tadej Pogacar. On est avec notre journaliste RMC Sport, spécialiste cyclisme, Maria Azé. Salut Maria.
Salut JC, salut tout le monde.
Alors l'IA est-elle en train de prendre vraiment de la place dans le vélo ?
Oui, alors de là à dire que Pogacar gagne grâce à l'IA, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais évidemment les grosses équipes comme UAE sont très friandes de toutes ces nouvelles technologie. Chez Decathlon, à G2R à Mondial, l'utilisation de l'IA, par contre, est encore assez partielle. L'équipe est encore en phase de test avec deux startups, notamment, explique le directeur de la performance, Jean-Baptiste Quiclet.
Aujourd'hui, on accumule une somme de data qui est quand même très importante. Chaque séance d'entraînement est enregistrée. J'ai énormément de data et l'IA permet de faire un travail de requête. Est-ce que mon athlète est performant au-delà de 1800 mètres d'altitude? Combien de séances mon athlète a battu quand il avait fait tel ou tel entraînement?
Alors, chez les grosses équipes comme UAE, l'IA fait déjà partie du quotidien. On l'utilise pour connaître le poids idéal de Pogacar selon le profil de telle ou telle course. La Visma Lease the Bike, elle l'utilise plutôt pour connaître les besoins nutritionnels de ses coureurs en course. Jean-Baptiste Quiclet, lui, quand même, insiste sur l'importance de garder le côté humain.
UAE, je dirais que ça a fait un peu effet loupe. Nous, on avait bien conscience que, bien sûr, les puissances de calcul sont importantes pour pouvoir faire les choix. Même si à la fin, ça reste quand même quelque chose de très humain. Ça reste des athlètes qui ont une conscience, qui ont c'est une psychologie. Aujourd'hui, l'IA, on peut pas l'intégrer en tant que tel.
Alors chez Jayco, l'IA aide même les directeurs sportifs à faire leur sélection en fonction des courses. Alors est-ce qu'on est plutôt sur une guerre technologique ou une vraie plus-value dans la performance ? C'est vous qui répondrez à cette question. En tout cas, chez les entreprises spécialisées, on voit dans le cyclisme une mine d'or pour les années à venir.
L'intelligence artificielle dans le cyclisme. On s'empare du débat, les GG. Est-ce juste un gadget ? Oui ou non ? Marc Madio.
Alors... c'est un gadget qui est fortement utilisé, mais...
Oui ou non d'abord ? Oui, ah, oui.
Oui, plutôt oui.
Plutôt oui, ok. Christophe Cessieux.
Pour l'instant, c'est un gadget, mais j'ai peur que le gadget prenne de l'importance.
Pascal Duprat.
Non, c'est pas un gadget.
Ok, Jérôme Pinault.
Non, c'est pas un gadget, c'est un pare-feu.
Ok, tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Marc Madio, sur ce sujet, je sais que ça te prend aux tripes.
Bah, c'est pas que ça me prend aux tripes, mais... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive sur le marché, le cyclisme, on a le don pour aller s'en emparer. On a parlé du monoxyde de carbone, ça a ouais. été plus ou moins utilisé par certaines équipes.
Les gains marginaux de Bike
etc.,
Ford,
etc. Moi, je veux bien tout.
Les moteurs contre... dans les vélos.
Oui, exactement, mais je veux bien tout. La science existe, il faut s'en servir. Oui, il faut s'en servir, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend du sport ? On attend du sport, des émotions, on attend de vibrer, on attend de s'éclater. Si tout était écrit... Moi, je fais une petite comparaison avec la Formule 1. Regardez la Formule 1 aujourd'hui. Hier soir, je regardais les essais du Grand Prix. On est en permanence, on nous donne des chiffres. Il a repris 3 dixièmes dans le premier secteur, 3 dixièmes dans le troisième secteur. Mais à un moment donné, quand on regarde la course ou le Grand Prix, on s'endort. Et on s'emmerde. Moi, j'ai envie de revivre la grande époque pro-Senna. Il y avait de la technologie, mais il y avait aussi des mecs dans chaque bagnole. Il y avait d'un côté il y avait Prost, d'un autre côté il y avait Senna. Eux, ils ont marqué l'histoire. Eux, ils ont marqué ce qu'est la Formule 1 et ce qu'était la vraie Formule 1. Aujourd'hui, ok, Verstappen, c'est sans doute encore un peu le meilleur pilote sur le marché, mais il est tellement soutenu et assisté par tout ce qui est technologie et ordinateur, on perd quelque chose. Moi, j'ai envie de conserver Thibaut Pinot la gueule en travers dans l'Alpe d'Huez. C'est ça que j'ai envie de garder. J'ai envie de garder le PSG qui va se battre mercredi avec ses tripes sur le terrain. J'ai pas envie de statistiques. J'ai envie de vibrer.
j'ai envie de vibrer dans le sport. Ouais, sinon, je ne regarde plus le sport.
Mais rien ne t'empêche d'avoir des statistiques pour t'aider au développement.
Je suis d'accord.
Pour améliorer la préparation.
On peut avoir des statistiques pour améliorer le sport. Mais il ne faut pas que les statistiques prennent le dessus sur l'émotion et sur ce qu'est le sport. Un rapport d'homme à homme. Un match de cerveau à cerveau. Est-ce que je vais rentrer dans la tête de mon adversaire pour le faire plier dans la dernière ascension? C'est ça qui nous intéresse dans le sport. Et si le sport n'est plus ça, si c'est qu'une donnée informatique, on s'emmerde et moi j'éteins la télé.
Marc, Pascal Duprat.
C'est pas, franchement, tu prends l'exemple de la Formule 1. C'est pas parce qu'on nous abreuve tout au long du Grand Prix de Stade.
On s'emmerde quand même pas mal.
Que ça rend, mais tu t'emmerdes parce que en fait les voitures elles sont proches des unes des autres et que
ça se double plus comme avant.
Mais ça c'est pas la responsabilité de l'intelligence artificielle, ça.
Non,
c'est parce que les voitures aujourd'hui sont proches les unes des autres, tout simplement. Et puis pour ce qui est de ton sport qui est un des premiers, même si tous les sports vont aussi vers les data et l'intelligence artificielle, c'est toujours les coureurs qui pédaleront. Franchement, qu'est-ce que ça t'enlève comme émotion? Moi, je préfère ça.
L'émotion de Madouas au JO. Oui,
est-ce que vous pouvez me laisser finir? Par exemple, si demain, si demain Pogacar continue à écraser le vélo, c'est parce que tout simplement il est meilleur, et aussi peut-être tout simplement parce qu'il se prépare mieux. Mais moi, je préfère ça plutôt que des suspicions sur le dopage. Pardonne-moi. Je préfère que, comment dire, l'intelligence artificielle serve à ce qu'instantanément on puisse savoir quels sont ses dépenses énergétiques, quels sont ce qu'on peut lui amener.
Pourquoi ça n'existerait pas? Parce qu'ils vont pas te sortir toutes les données dont on aura besoin.
Mais je préfère ça à ces suspicions de dopage. Alors moi, du moment où on essaye d'améliorer la performance grâce à l'intelligence artificielle pour mieux cibler les rythmes d'entraînement, les cadences d'entraînement.
Moi je considère un peu l'intelligence artificielle dans l'utilisation, dans l'utilisation qu'en font le reste de la population comme du dopage. Quand je regarde mes enfants,
je te connais par cœur.
Je regarde mes enfants qui préparent leurs devoirs. Je les ai chopés la dernière fois, mais je peux te dire que...
Oui, mais ça n'a rien à voir, là. Hein,
ils préparent leurs devoirs en utilisant ChatGPT. Ils arrivent devant leur prof, regardez, une copie parfaite, avec les arguments du pour, du contre, un truc bien écrit, pas une faute d'orthographe. Et ça, c'est pas du dopage. Est-ce que tu crois pas que le jour ils seront confrontés à la véritable réalité dans un examen où ils auront pas accès à tout ça, ils vont pas se retrouver le nez planté dans la terre? Et pour moi, c'est un peu la même chose. L'utilisation de l'intelligence artificielle, malheureusement, on pourra pas lutter contre.
On ne pourra pas lutter contre,
mais ça va petit à petit transformer les coureurs, les directeurs sportifs, tout ça va transformer les coureurs en des robots. Déjà, quand tu vois les mecs qui pèsent leur nourriture, qui sont devenus les esclaves de leur compteur de puissance.
Les esclaves
de leur directeur sportif qui leur disent à tout moment dans les oreillettes, là il faut que tu attaques, là il faut que tu renonces,
revenons au monde des coureurs cyclistes avec les boyaux autour du cou. Voilà, les boyaux autour du cou. Un Tour de France avec une petite roue devant, une grande derrière pendant qu'on y est. On revient à l'âge de pierre.
J'ai envie de militer pour un cyclisme qu'on rende à ce qu'il était à l'origine.
Interdiction.
Un mec sur le vélo et les mecs qui partent d'un point A qui arrivent à un point B.
Interdiction des oreillettes, interdiction des compteurs de puissance.
Très bien. Juste un exemple précis pour lancer
mieux avant,
Jérôme.
Ouais. Tu milites pour ton émission, toi. C'était mieux avant.
Je reprends. Juste pour vous dire que, par exemple, un exemple concret où peut servir l'IA pour l'équipe de Pogacar UAE. Il y a le directeur de la performance dans un très bon papier dans l'équipe qui dit l'IA peut dire pour l'Amstel Pogacar serait plus performant à 65,5 kilos ou 66 kilos plutôt que les 64 quand il fait le Tour de France. Voilà, ça peut leur servir à ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des sensations de coureur, mais l'IA peut dire ben non, tu dois faire ce type de kilos.
Mais ça, un directeur sportif un peu malin qui connaît le vélo, il n'arrive pas à le savoir.
Jérôme Pinault.
Comme l'IA s'adapter Tadej Pogacar à sa position selon les parcours, notamment entre les Strade Bianche il y a 3 mois sur des pistes sablonneuses et avec un poids supérieur et sa position sur l'Amstel dernièrement, elle est complètement différente. On fait appel à l'IA. Pourquoi on fait appel à l'IA? Moi, je veux bien tout ça en préparation. Je suis d'accord avec aussi Pascal sur la préparation, mais je reviens à ce que disait aussi Marc, c'est-à-dire que à un moment donné, en prépa, en optimisation, c'est bien. Je pense que ça peut fausser l'essence même de notre sport si on l'utilise trop et trop souvent, et notamment en compétition. Pour la préparation, pas de problème. Et ce qui me gêne encore plus, et là je mets les pieds dans le plat, c'est on parle UAE utilise l'IA, on a Jean-Baptiste Guiclet qui dit on va laisser la place. C'est toujours les mêmes équipes qui optimisent tout et tout le temps. C'est-à-dire qu'on nous a parlé des cétones, on nous a parlé du monoxyde, on nous a parlé à l'époque des marginal gains. C'est toujours ceux qui gagnent. Moi, je suis désolé, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle, tant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Et l'IA, c'est très bien, mais ça a jamais fait avancer un coureur plus vite. Et ne serait-ce que de lui dire, faudrait que tu fasses 500 grammes de moins. Ah merci mec. Mais même si tu fais 500 grammes de moins, ça te fait pas gagner la course. Donc il faut arrêter.
C'est pour ça que je dis non mais oui, alors, Jérôme. Que... Oui. C'est pour cette raison que je dis c'est quand même mieux de
c'est
parler
pour ça que je te dis que
dans
je suis
votre sport.
Avec toi.
Voilà, plutôt non, que de dopage.
Dans l'optimisation.
Oui, mais pour le
oui,
coup,
mais ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que il y a des équipes sur lesquelles.
C'est un écran de fumée, quoi, en fait.
Un petit peu, un petit peu. On nous donne un peu des leçons. Et comme nous, on a facilité à se faire taper dessus dans le vélo et aussi dans le cyclisme français, on n'est pas des dindes. On sait se servir de l'intelligence artificielle. Nous aussi, en France, je pense que Marc a des gens au sein de son équipe qui connaissent ça parfaitement. Mais ça fait pas avancer plus vite quand même.
Ok, très bien. Débat enflammé sur l'intelligence artificielle. On en reparlera forcément durant cette émission. Merci Maria Zé d'avoir été avec nous ce matin. Il est 11h45. Vous allez devoir à un moment donné, c'est vrai, noter ce débat caché. C'est une proposition de Christophe et je pense qu'elle est plutôt bonne. Comme ça me permettrait peut-être moi aussi de me remettre en question. Peut-être de faire appel à l'intelligence artificielle pour vous proposer des débats cachés. C'est possible aussi. Je vous propose ce débat et à la fin vous notez. Ok? Vous notez en votre âme et conscience, mais surtout avec objectivité, s'il vous plaît. Hein? Mettez pas
10.
Mettez pas des 2 sur 10 à chaque fois. Ok? Allez, à tout de suite sur RMC, le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault ce matin à partir de midi, les paris RMC autour de ce match évidemment passionnant ce soir entre Lille et Marseille avec toute la Dream Team. On va décrypter cette rencontre et on va évidemment vous donner les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre. Sur l'instinct, sur la sensation, sur l'émotion. Justement, tu parlais d'émotion et pas d'intelligence artificielle. Je te propose quelque chose, je mets le saucisson sur la table. À toi de t'en emparer ou pas, Marc. C'est comme ça que ça se passe la vie. C'est simple comme un saucisson. Le saucisson caché du jour, c'est ça.
Victoire de Tadej Pogacar qui remporte son 9e monument et qui devient le premier cycliste de l'histoire à faire le triplé Tour des Flandres, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il est tout simplement, c'est une légende Tadej Pogacar et il marque l'histoire de son sport aujourd'hui.
Alors pourquoi je vous propose du Tadej Pogacar aujourd'hui?
C'était du mariage.
C'était spécial cyclisme.
Oui, bah, c'est vrai. Un peu de foot, un peu de vélo, et puis voilà, comme ça tout le monde est content, les copains.
Non, un peu de foot, beaucoup de vélo.
C'était il y a une semaine, la victoire donc de Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Quelques jours plus tard, Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, a raconté une scène surprenante dans l'émission de GT de Cycling Club. Pendant la course, le Slovène est venu à sa hauteur pour papoter en pleine ascension. Et voici ce que dit Geraint Thomas à propos de Tadej Pogacar.
J'étais
Ah, G. Thomas.
Soudain, j'entends « Salut, G. Thomas ». Je me retourne et c'est Pogacar. Il vient à ma hauteur et commence à me parler de son incroyable nouvelle montre Richard Mille qu'il allait chercher le lendemain. Je me disais « On est à 420 watts et toi, tu veux juste papoter ?» Moi, je devais me concentrer pour respirer. Il est vraiment dans notre monde.
He's right another level.
Je vous propose ce débat, les copains. Est-ce que cette anecdote-là, c'est amusant ou c'est déconcertant? Amusant, déconcertant. Il faut choisir son camp. Jérôme Pinault.
Moi, ça, c'est gênant et c'est déconcertant.
Ok. Pascal Duprat.
Ça fout la trouille. Donc, c'est déconcertant.
Marc Madiot.
Déconcertant.
Christophe après, Cessieux. Moi, si je fais un col à côté de Jérôme Pinault ou à côté de Marc,
mais là, je prends tous les deux.
Ouais, c'est pas les mêmes comparaisons.
Je vais quand même exploser. Je pourrais pas respirer et vous fumerez la pipe. Donc il y a toujours une.
Oui, mais attention.
C'est plutôt amusant.
Ouais, j'en sais rien. Non, c'est pas amusant.
Si, dit amusant, parce que tu
le
kiffes
trop. Je vais pas dire amusant parce qu'évidemment tout le monde va dire. Voilà.
Tu m'appelles le bisounours, toi, d'habitude. Ben c'est toi le bisounours aujourd'hui.
Jérôme Pinault, pourquoi gênant?
C'est gênant parce que, d'une part, venant d'un coureur du peloton, c'est déjà pas réfléchir à comment ça va être interprété. Parce qu'on sait très bien que si Geraint Thomas dit ça, c'est qu'il émet des doutes, parce que les gens ils vont le traduire comme ça. Et moi, ça me gêne encore plus parce que, à une époque, et je me rappelle de cette fameuse étape quand Geraint Thomas prend le maillot jaune sur le Tour de France et qu'il le lâchera plus ensuite. Lui aussi, il pouvait te dire ça dans un col à 400 watts. Donc, c'est un peu laisser une espèce de flou sur les performances et le niveau largement au-dessus des autres de Tadej, alors que lui, à une époque, il était au-dessus des autres aussi. Maintenant, c'est déconcertant parce que le mec est au-dessus et donc il peut se permettre ça. Et en plus, on n'a pas le nom de la côte, mais on sait où c'est dans la haute levée. Autant te dire que ça venait de passer les trois difficultés majeures de Liège-Bastogne-Liège. Et il est capable de discuter de cela au bout de ces trois bosses-là. Donc effectivement, Marc me regarde, parce que c'est la même côte où Valentin Madouas s'est fait distancer. Lui, il discute. Bon, c'est déconcertant, ça c'est sûr.
Il y en a un qui a 38 ans, l'autre qui a 26 ans. Geraint Thomas qui n'est plus tout à fait.
Non, mais moi, ça me gêne de façon
du Tour.
Qu'ils le disent comme ça, Christophe. Moi, c'est ça qui me gêne. Geraint Thomas qui dise, voilà, il m'a parlé, il est au-dessus. Il n'a pas besoin de le dire, il est dans le peloton. Il est en train de faire du mal lui-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt.
Ouais. J'aurais bien aimé l'entendre parler de ça à l'époque quand avec il parlait de Chris Froome et de Bradley Wiggins quand même. J'aurais bien aimé.
Marc Madiot. Après, il le dit en s'amusant, peut-être qu'il
ouais,
fait pas.
Ouais, il le dit en s'amusant. Moi, je suis pas tout à fait sur le même tempo que tu es, Jérôme. Moi, ce qui m'embête, c'est le côté bling bling du truc.
À la montre.
La montre Richard Mille, dont un coureur parle pendant une course. Le cyclisme, à sa base, c'était un sport d'ouvriers et de paysans. Et là, on arrive dans un peloton où on exhibe, où on montre.
Van der Poel qui arrive en Maserati.
On est rentré dans un autre monde. Et je sais pas, moi je
ça le gêne, mais en même temps Pogacar il l'a pas explosé aux yeux du grand public.
À Paris-Roubaix elle l'a même blessé, ça c'est la même marque.
Si Geraint Thomas
je vais être honnête avec vous, je suis un peu perdu avec ce que je vois. Pour moi le cyclisme c'est la course autour du clocher, c'est la petite prime qu'on va se disputer.
Pas toi, Marc, pas tu sais très bien bling. Mais tu sais très bien que l'argent.
Oui,
et l'économie dans ton sport là, n'a plus rien à voir, quand même.
Il y a l'économie du sport à changer et elle continuera à changer, mais se réduire dans une course cycliste à parler à son voisin de course dans le peloton de sa dernière montre très haut de gamme qu'il va aller chercher le lendemain. Je trouve que ça change la nature de notre sport.
Tu sais que s'il y a un de tes coureurs qui fait ça, tu le prends mal? Si tu l'as.
Je lui dirais, sois conscient que tout le monde n'est pas dans la même situation que toi. Le monde ne va pas forcément très bien dans son ensemble. Et abstiens-toi, même si toi, t'es un privilégié. Voilà ce que je dirais.
Alors, pour, il y a une image,
Pascal.
L'image qui doit, qui est, parce que Marc, t'as pas vu l'interview, t'as pas vu le podcast, ce qui te foutrait hors de toi encore plus que cette situation de parler d'une montre de luxe, c'est que le podcast, Kérine Thomas, s'il le fait, sera table de massage. C'est-à-dire que il anime une émission sur une table de massage avec un mec qui est son staff. On l'est à l'ancienne. Ce moment est sacré. On parle avec son masseur. On parle avec le type qui fait face à vous. Là,
lui, il est avec son téléphone.
Lui, il est avec son téléphone, sa caméra. Il parle avec ses auditeurs.
Respect pour
il le respecte mec qui le masse. Plus. Moi, ça m'a plus choqué que la montre Richard.
Ok, Pascal.
Donc je m'aperçois que c'est pas que dans le football qu'on voit des trucs incroyables.
Vous avez donné le bon exemple, Pascal. Grâce à vous, regarde, on en est arrivé quand même.
En fait, tu as dit tout à l'heure que ta grand-mère te conseillait de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Alors j'ai envie de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, mais malgré tout, parce que j'ai peur de me faire attraper par Bernardino.
Tu vas te coincer la langue.
Moi, il y a un truc. Voilà, je suis désolé de vous dire, cycliste. J'adore ce sport, il est merveilleux, mais de tout temps, on a l'impression que ça a toujours marché à l'eau claire, quoi, et encore aujourd'hui. Et moi, vous n'allez pas me duper. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà.
Ok. Il a laissé un poil là.
Sans déconner, moi je veux bien être le roi des bisounours, je veux bien être le roi des naïfs, mais malgré tout, voilà.
Si Bernardino nous écoute, j'ai le numéro de téléphone
pour en son âme et conscience. Un jour venu, on sera tous devant, l'instant fatal où on va trépasser. Bah, là, chacun se fera son idée sur ce qu'il a pensé, de ce qu'il a-t-il été honnête, pas honnête, quoi que ce soit. Moi, ça m'interpelle, Pogacar, mais pas que. Parce que je me dis que si Pogacar m'interpelle, d'autres dans le peloton m'interpellent aussi.
Bon, on a suffisamment parlé de Pogacar et je vous renvoie à notre émission spéciale dopage de la semaine dernière avec l'Agence mondiale antidopage. C'était une petite séquence, les amis. Maintenant, je vais vous demander de noter, comme ça, pour terminer cette émission, ce débat caché. Sur 10, vous lui donnez combien? Pas de virgule, hein. Ok, une note claire. Jérôme Pinault.
Bah, 10, on parle de vélo, forcément.
10, ok, Marc.
Sans que ça en a l'air, 9 sur 10.
Ah, tu vois, c'était pas si mal, hein. Pascal Duprat.
Non, 10.
10, ah bah merci, faut pas tout le temps, c'est pas l'école des femmes.
Attention, la moyenne va baisser. 2,5. Pas de virgule.
De toute façon, il respecte jamais les consignes. On lui dit de faire court, il fait non. Je lui demande pas de virgule, il me dit 2,5. Merci Christophe. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. Merci Christophe.
Mais j'en ai marre que tu trouves toujours des trucs sur le vélo pour que.
Merci Pascal.
Salut les bisounours.
Merci Jérôme. On va reparler d'El Nabi.
Salut le roi de l'IA.
On peut plus parler de vélo. Merci d'avoir été avec nous, les copains, évidemment, semaine magnifique avec le PSG en demi-finale de la Champions League. Et dans quelques instants, ce Lille-Marseille, on en parle dans les paris RMC. Restez bien avec nous. Allez, à tout de suite.